Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui.
Ah.
Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera.
Le Palais des Papes d'Avignon.
C'est un monument du XIVe siècle. Il fut construit il y a 600 ans par les papes d'Avignon. Les papes ont habité Avignon et le comté avignonnais pendant un siècle environ. Puis ce fut leur tour à Rome. Et l'administration du palais fut confiée à des légats, des gouverneurs, et cela jusqu'en 1791, qui est la date de la révolution avignonnaise. Si sous l'Empire, sous Napoléon Ier, en 1812, le palais fut transformé en caserne. Et pendant 94 ans, dans le palais des papes, il y a eu un régiment d'infanterie.
Le siècle de présence effective du pape éclipse les 5 siècles d'une administration pontificale qui perdure, confiée à un vice-légat. En 1791, c'est le palais de celui-ci qui dissimule les bâtiments du XIVe siècle. La Révolution fut fatale à ce palais qui était le plus récent, et ce fut de peu que l'ensemble, considéré comme une bastille du clergé, échappa à la ruine. Il faut bien admettre que sa réaffectation le protégea. Les administrations pénitentiaires et militaires le sauvèrent à leur manière qui était brutale. Au début du XXe, la caserne du palais, enfin, fut vidée. Peu après, un chroniqueur, André Allais, écrivait « Il est deux façons de détruire un monument, on peut le raser, on peut aussi le restaurer. Des deux manières, on obtient le même résultat. » Le pronostic a été démenti. Il est vrai que le palais a fait l'objet de restauration, mais tout autant de restitution et de reconstruction. Il est devenu autre chose que ce qu'il avait pu être. Son rôle est certes de témoigner d'une fidélité à l'histoire, mais aussi d'afficher un emblème pour le festival qui ne peut se passer de sa cour d'honneur et pour la ville qui, réduite à une destinée modeste, a besoin d'un outil culturel de première grandeur.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Et dont le conservateur, la conservatrice Dominique Vintin, bonjour.
Bonjour.
Qui cumule les fonctions de conservateur du Palais des Papes et du Petit Palais au Palais des Papes, au Grand Palais, vous êtes depuis 1993, est notre invité. Vous avez fait une thèse sous la direction de Jean-Michel Legnaud dans son esprit, d'où est issu un superbe et gros livre aux éditions Honoré Clair, intitulé « L'invention d'un monument historique ». On va parler du Palais des Papes tel qu'il est réinventé.
C'est tout à fait ça. Réinventé comme monument littéraire dans un premier temps et réinventé comme monument historique et comme monument reconstruit d'une certaine façon par les restaurateurs.
Il est ouvert au grand public assez largement depuis quand ?
Depuis 1907. Un an
donc après que les militaires sont partis. Les militaires, ils étaient évoqués il y a un instant par un monsieur dont je suis étonné que, docteur en histoire des arts, vous ne connaissiez pas le nom, il s'appelle Étienne Roustan. Vous savez, les conservateurs, ça passe. Il y avait un nommé Joseph Girard après la Deuxième Guerre mondiale, oui.
Tout à fait.
Ça, vous le citez d'abondance.
Oui, oui, tout à fait.
Mais Étienne Roustan, c'était quand même un personnage comparable à Jacques Dufilho. Certains se souviennent peut-être du sketch du grand comédien.
Lorsque vous vous trouvez devant cet immense monument, ce qui surprend surtout, c'est la diversité de son architecture. Car le palais fut construit par les papes, mais successivement, sans aucun plan déterminé. Chaque pape, en arrivant au pouvoir, ajoutait sa pierre à l'édifice. Elle lui donnait son empreinte bien personnelle, vous allez en juger. Tenez, voici la construction de Benoît XII. Benoît XII était un moine cistercien, voyez, il a fait construire un vrai monastère. Alors que son successeur, Clément VI, était un homme du monde, grand seigneur. Et à son avènement, en 1342, il fit construire là-dessus de l'aile occidentale. Remarquez la différence des deux architectures. L'œuvre d'un moine, un cloître. L'œuvre d'un grand seigneur, un palais plein d'élégance.
Je ne sais si ce qu'a découvert Franck Olivar, qui a préparé cette émission, a jamais été diffusé, mais on a la visite en entier du Palais des Papes par Étienne Roustan, 45 ou 47. C'est un disque qui a été restitué, reconstitué, restauré, je ne sais pas comment il faut dire. Si on commence, nous, en 1789-90, quand le vice-légat gouverne encore le comté avignonnais, qui fait partie des États pontificaux, il y a un autre palais qui est enchâssé, emboîté dans le palais des papes du XIVe siècle.
Tout à fait. C'est le palais du vice-légat. C'est le seul, finalement, que l'on connaisse, dont les archives nous parlent, ce palais du vice-légat, qui a été construit, aménagé à l'intérieur du grand palais du XIVe siècle, en se resserrant, puisque la cour était plus petite, dans les anciens appartements pontificaux. Et tout autour, on avait un arsenal, on avait un jeu de paume, on avait un jeu de ballon, etc.
Pendant un an, Avignon se détache de la tutelle pontificale, on est en 90-91, sans passer vraiment sous la tutelle de la France. Les Français ignorent complètement l'histoire de la Révolution dans cette région, mais ça a été une suite de soubresauts avec des patriotes modérés et des patriotes extrémiste. Alors, il y a un personnage fantastique, Jourdan Coupe-Tête.
Oui, effectivement, le nom l'est aussi. Donc Jourdan Coupe-Tête, c'est celui qui, à la tête d'une armée de patriotes et d'une armée qu'on appelle celle des braves brigands, va prendre le palais une première fois en juin 1790 et puis va s'y installer ensuite en septembre 1791 et va transformer ce palais du vice-légat en fort. Et à partir de là, va régner en maître sur ce fort.
Alors, dans ce fort, parce qu'on parle d'un fort à l'époque, un an avant les massacres de Paris de septembre 92, en septembre 1791, il y a 60 personnes qui trouvent la mort dans des conditions atroces et ça a laissé une forte empreinte dans la mémoire avignonnaise, sinon française. C'est le massacre de la glacière.
Le massacre de la glacière. Alors effectivement, ça s'est produit dans la nuit du 16 au 17 octobre et c'est un événement extrêmement intéressant à relire pour les historiens puisqu'en fait, à un moment de tension sociale extrême à Avignon, eh bien, le secrétaire de la municipalité est massacré par la foule dans l'église des Cordeliers et par représailles, on arrête 50 personnes comme ça dans la ville, on les transporte dans le fort, on les massacre sans aucun procès et on les jette dans une tour qui était la tour des latrines, mais qu'on avait baptisée pour des raisons complexes, la tour de la glacière.
Et c'est ainsi qu'il y a des sectateurs des brigands et des sectateurs des glaciéristes qui vont s'opposer longtemps à Avignon. Le palais échappe de peu à la destruction puisqu'il y a une loi en août 93 qui ordonne la démolition des forts et des châteaux fortifiés qui ne se situent pas aux frontières. Le palais du vice-légat va connaître un sort ingrat. Mais la réaffectation, d'une part à la prison, d'autre part à la caserne, maintiennent le bâti pontifical du XIVe siècle. C'est quand même étrange parce qu'on dit que c'est une Bastille du clergé. Et aussitôt après, on y emprisonne au nom de la Révolution, puis de l'Empire, bien plus de personnes qu'il n'y en avait dans les cachots sous la papauté.
Ah oui, sans aucun doute, puisque en fait, le palais au XIVe siècle ne servait pas à proprement parler de prison, et que c'est seulement à l'époque moderne et surtout à partir de la Révolution que le palais va devenir pour partie une prison où l'on entasse beaucoup de monde à partir de l'extrême fin du XVIIIe siècle.
Et les militaires, il y en a eu jusqu'à combien? 1500
2000 soldats étaient casernés au Palais des Papes.
Alors le souvenir des militaires installés à partir de 1796, surtout 1801 officiellement, est plus fort que le souvenir de la prison. Vous reprendrez bien une dose d'Étienne Roustan.
Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons passer dans la grande audience de Clémence, un superbe morceau d'architecture gothique. Malheureusement, cette belle salle n'a pas été épargnée par les soldats lorsqu'ils prirent possession du palais pour en faire une caserne et construisirent un étage sur les supports de voûte. Ils avaient muré toutes les baies et à la place, on avait ouvert des fenêtres. Style génie militaire, 19e siècle. Et ça n'avait rien de gothique, je vous assure. Heureusement que les supports de voûte, qui sont très intéressants, furent noyés dans la maçonnerie de l'étage. C'est ce qui les préserva, ils sont intacts. Et chacun d'eux a sa signification, parfois assez humoristique. Là, tenez, vous avez un sanglier déguisé en soldat. Voyez ce sanglier armé d'un glaive, un bouclier, un baudrier. Et la chopine, la bouteille, probablement un attribut des militaires à cette époque-là. À l'heure actuelle, ils sont plus sobres, ils n'ont pas des attributs semblables, surtout depuis qu'il n'y a plus que 2 litres de vin par mois à ravitaillement. Et là, vous tenez sur la voûte une très belle fresque du XIVe siècle. Les prophètes et une sibylle. Du peintre italien, Matteo Giovannetti de Viterbe, le peintre de Clémency. Elle fut sauvée, cette fresque, qu'envers les soldats, grâce à l'initiative d'un colonel de grenadiers, qui la fit recouvrir par un faux plafond.
Ben, on regrette quand même un verbe comme celui-ci. C'est vous qui formez les guides ?
Alors, oui, c'est nous qui participons à la formation des guides et à la construction des discours. Mais là, c'est formidablement théâtral.
Oui. Dites-moi, il n'a pas complètement tort en plus. Style génie militaire, ça veut dire multiplication des niveaux et des fenêtres à la place des ouvertures du Moyen-Âge.
Oui, puisqu'il a fallu loger ces 2000 soldats, et donc on a créé d'immenses dortoirs, et donc des planchers, et pour desservir tous ces dortoirs, de nouvelles portes, de nouvelles fenêtres, c'est ce qui a métamorphosé l'ensemble du palais.
Mais il dit, Étienne Roustan, qu'il ne faut pas trop accabler les militaires. Enfin, il y en a qui sont redoutables, le régiment Corse, par exemple.
Tout à fait.
Oui, mais le génie militaire qui a été là de manière plus durable, c'est moins pire. Ils ont senti tout de suite l'importance des peintures.
Alors là, je pense que Étienne Roustan, c'est ça, s'exalte un peu.
Oui,
voilà,
Roustan.
Il est un petit peu exalté sur cette question-là parce qu'en fait, les militaires justement n'ont pas compris tout de suite l'intérêt de ces peintures et les ont même beaucoup décriées et négligées.
Enfin, vinrent les tenants du patrimoine. Le jeune Charles de Montalembert, Arcis de Caumont. Eh bien, on va citer un roturier, Prosper Mérimée, dont le premier séjour à Avignon date de 1834. C'est l'année où il invente sa nouvelle fonction d'inspecteur des monuments historiques.
Je passe maintenant ma vie à enrager de ne pouvoir obtenir rien de ce que j'ai demandé pour mes masures. On me promet, on m'ajourne et on ne signe jamais. Il est vrai qu'on a tant de choses à faire que ce serait miracle qu'on pensât à de vieilles églises et à leurs malheureux avocats. On parle du remplacement de M. Guizot, ce qui me déplairait fort. Il vient de nommer une commission historico-artistique dont je suis membre et qui doit fourrager et faire fourrager les bibliothèques pour en faire sortir les manuscrits philosophiques, littéraires, etc. Nous voulons aussi entreprendre un petit travail qui sera tout bonnement le catalogue de tous les monuments et de toutes les antiquités de la France. J'estime que nous en serons quittes avec 250 ans de recherche et 900 volumes de planches. Le texte sera plus considérable car nous avons des membres assez verbeux, par exemple Victor Hugo. En attendant le catalogue, nous allons commencer par quelque chose de très utile. C'est un manuel qui contiendra une instruction sommaire mais suffisante pour déchiffrer les manuscrits, les médailles et, si nous pouvons, les inscriptions. Je crois que cet ouvrage, envoyé dans toutes les bibliothèques de France, pourra être très utile. Dans une foule de bibliothèques, on ne trouve ni Mabillon, ni même Devennes, et lorsqu'il se rencontre un oisif d'assez bonne volonté pour s'user la vue, il n'a pas le moyen de le faire sur les manuscrits de son endroit, faute d'un alphabet. Vous voyez, monsieur, que nous commençons par les éléments, comme le professeur de philosophie de monsieur Jourdain.
Encore une fois, Paul-Émile Débert, et quel style !
Oui.
Vous avez lu les lettres de Mérimée sur Avignon ?
Oui, la correspondance de Mérimée est tout à fait passionnante. On y découvre ce jeune inspecteur, il a une trentaine d'années, qui apprend un nouveau métier, puisqu'il est déjà connu comme écrivain, et qui parcourt la France en calèche, vitupérant contre les conseils municipaux de différentes villes, dont celui d'Avignon, notamment pour différentes questions, et en particulier la question fondamentale à ses yeux de la protection des peintures murales du Palais des Papes.
On revient toujours aux peintures. Ce qui est intéressant dans cette lecture, c'est l'association de l'archéologie, enfin du travail sur le monument, et de la recherche des sources. C'est pas facile, ça, à Avignon, parce que le vice-légat a envoyé les archives à Rome, ou quand il s'est replié sur Vaison-la-Romaine, non, c'était sur Carpentras, il les a pris par devers lui.
Alors, fort heureusement, les archives avant la Révolution française, les archives médiévales avaient été renvoyées à Rome, ce qui a permis de les sauver sans aucun doute. Et il a fallu du temps pour que les historiens puissent commencer à travailler à partir de 1880 sur ce fonds d'archives, qui est une sorte de trésor, en fait, historique, qui permet de comprendre la construction et le fonctionnement de ce palais.
Donc quand, en 1840, Mérimée fait inscrire sur la première liste des monuments historiques à Avignon, il n'y a pas ces sources écrites. Qu'est-ce qui l'intéresse, lui ? Le crénelage, ça c'est assez romantique, la forteresse.
Tout à fait. Mérimée, lorsqu'il vient à Avignon, d'abord il dit qu'il n'aime pas du tout le gothique fleuri des églises d'Avignon. Et on le sent relativement peu admiratif du Palais des Papes, qu'il observe comme une forteresse. Et qu'il observe aussi pour avoir été, selon lui, la scène des tortures de l'Inquisition.
Ah bah ça passionne les gens, ça.
Ça passionne les gens, mais c'est totalement faux. Et à partir du moment en 1834 où Mérimée écrit cela, eh bien, tout le monde va le reprendre à sa suite. Stendhal, puis plus longtemps après Michelet, puis bien d'autres écrivains et historiens vont reprendre tout ceci jusqu'à ce qu'à un moment, Arcisse de Caumont mette dans les années 1850 un coup d'arrêt en disant il faut en finir avec toutes ces légendes de l'Inquisition au Palais des Papes.
On peut visiter, un peu comme on peut visiter Clairvaux aujourd'hui, la prison et la caserne d'Avignon. Mais il faut demander un privilège. Et on est observé par les soldats et les prisonniers derrière les barreaux.
Alors, tout à fait, la visite à cette époque-là, en fait, on ne visite pas la prison puisqu'il y a un grand mur qui a été construit et qui sépare la prison de la caserne. Mais on passe à travers les dortoirs et il faut s'adresser au concierge pour pouvoir être autorisé à entrer dans ces dortoirs et à aller visiter les peintures murales. Et en même temps, on a à la fois un objet patrimonial qui naît, qui est en train d'être inventé, et le fonctionnement de la caserne.
Oui, mais le moment clé, c'est bien sûr pour le touriste privilégié, l'observation des peintures murales, mais c'est quand le concierge ouvre la trappe, et là, il dit...
Et là, il montre les cachots de la redoutable Inquisition, et
les
surtout...
Les oubliettes,
tout à fait.
Et les machines à torture, elles étaient où ?
Alors, les machines à torture étaient censées avoir pris place dans ce qui était en fait la cuisine.
Ah.
Et donc, on montre cette cuisine avec des traces sombres qui sont censées être des traces de sang, de torture, etc.
Le souci de la conservation, les travaux de recherche se développent, mais il faut un demi-siècle pour que les occupants militaires et pénitentiaires quittent le Palais des Papes. Il est vrai qu'il faut une réaffectation justifiée, ça peut aider au départ. Alors au temps de l'alliance du trône et de l'autel sous Napoléon III, l'archevêque s'est dit, tiens, je pourrais faire mon bureau dans la chambre du pape.
Alors plus que son bureau, il voulait transférer la cathédrale au sein du palais des papes, dans l'ancienne grande chapelle pontificale, et c'est exactement le programme qu'il avait confié à Viollet-le-Duc en 1860.
Voilà, maintenant Viollet-le-Duc après Mérimée.
Voilà, tous les grands noms
de l'histoire du patrimoine.
Liés à l'histoire du patrimoine français, sont passés à Avignon, au Palais des Papes.
Et ce sont finalement les collectivités locales qui vont l'emporter après l'échec du Second Empire en 1870. Alors on peut rendre hommage au Conseil Général qui installe ses archives.
Oui, tout à fait, en 1883.
Et vous, comme vos collègues conservateurs d'Avignon, vous êtes nommé par la municipalité.
Tout à fait.
Et donc, c'est la municipalité qui va l'emporter, quand même.
Oui, puisqu'en fait, la caserne occupait la majeure partie de ce monument, et c'est la ville qui est propriétaire de toute cette partie-là du Palais des Papes.
C'est la ville qui reprend le palais au début du siècle, du 20e siècle.
C'est ça, qui en retrouve la jouissance en 1906, au moment du départ des militaires.
Et qui veut installer... Enfin, les militaires, ils reviennent tout de suite avec la guerre de 14.
Tout à fait.
Oui. Mais la municipalité va instituer un circuit de visite. Là, c'est ouvert largement.
Oui, à partir de 1907.
Et alors, vous faites très longuement dans votre livre « L'invention d'un monument historique ». J'ai dit que c'était publié aux éditions Honoré Clair. L'histoire des musées successifs, c'est extrêmement compliqué. Mais le premier musée, c'est quand ?
Alors, le premier musée, en fait, il commence dans les années 1910 avec l'embryon d'un musée de sculptures comparées pour le Midi médiéval, avec des moulages de sculptures. Et puis, en 1922, la création du musée du Vieil Avignon et du Comtat Venaissin.
Et vous racontez que dès avant la guerre de 14, et dès les années 20, de nouveau... Il y a des représentations théâtrales dans le Palais des Papes.
Oui, on le sait très très peu. Effectivement, alors en 1923, eh bien, il y a un cycle théâtral qui est instauré au sein du Palais des Papes et qui en fait prend place devant la façade principale. Et ce cycle a beaucoup de succès, mais soulève une polémique. Est-ce que c'est bien normal de confier la gestion d'un cycle théâtral à un entrepreneur privé ? Et donc on finit par interrompre ce cycle de théâtre.
En 1947, Jean Villard va faire aménager par l'armée, grâce au service de l'armée, la cour d'honneur. Le 4 juillet commence le nouveau festival d'Avignon. Olivier Py mettra en scène le roi Lear dans la cour d'honneur et dans une cour plus modeste, mais très belle, celle du musée Calvet. On pourra entendre la Tunisienne d'Orsaf Amdari le 20 juillet, chanter Barbara et Férouz. La devise du festival cette année, qui est inspirée de l'esprit du 11 janvier, elle a été choisie par Olivier Py, c'est « Je suis l'autre ».
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, les contes de notre enfance, il était une fois, commence, à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu, que les roses sont belles, à Göttingen, à Göttingen.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Dorsaf Hamdani au programme du Festival d'Avignon qui commence dans moins de 10 jours, et au programme de la Marche de l'Histoire, l'histoire du Palais des Papes en tant que monument historique sans cesse réinventé, avec sa conservatrice qui publie un très fort volume chez Honoré Clerc consacré à l'invention du monument historique, puis un autre très public, lettré de masse, beaucoup plus accessible et, il faut le dire aussi, un peu moins cher, Dominique Vintin. C'est curieux, jamais, je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question, bien sûr que oui, jamais les organisateurs du Festival d'Avignon n'ont voulu s'inscrire dans l'histoire d'Avignon, raconter les papes dans la cour d'honneur du Palais des Papes, reconstituer une procession théâtrale du vice-légat, que sais-je. Ils ont toujours cherché à marquer un décalage.
Tout à fait. Un décalage, il y a presque quelquefois un hiatus, une dichotomie entre le festival d'un côté et le monument historique de l'autre, qui est pourtant ce qui a suscité l'arrivée du festival à Avignon en 1947. Et c'est très intéressant de ce point de vue d'observer par exemple les affiches du festival. Les premières affiches du festival, eh bien, elles ont tout un rapport avec le monument, elles ont tout un rapport avec le Palais des Papes. Et puis progressivement, on voit ce lien se distendre et on oublie un petit peu que la cour d'honneur du Festival d'Avignon, elle est au cœur du Palais des Papes d'Avignon.
Mais je sens là un certain agacement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelques désagréments que vous connaissez du fait de la réintroduction de l'armée qui vient toujours monter la cour d'honneur, non ?
Non. Il y a une armée de techniciens, mais
qui,
plus l'armée.
Oui. Monter la cour d'honneur.
Non, c'est pas du tout en termes d'agacement. C'est vraiment en termes d'observation d'un phénomène culturel que je disais ceci. C'est très intéressant de voir effectivement comment il y a un monument qui suscite l'attention des Hervos, qui suscite l'attention de René Char, de Villard, et puis comment ensuite il y a un autre monument qui se crée, qui est celui du festival et du mythe du festival, qui va venir effacer le monument qui est autour de lui.
Oui, mais l'avantage, c'est que chacun, même ceux de nos auditeurs qui n'ont jamais été au Festival d'Avignon, a une image de la façade de la cour d'honneur, et j'aimerais maintenant que vous nous aidiez à l'observer en tant qu'historienne du monument et pas seulement en tant que spectatrice du festival. En ouverture de votre livre, vous mettez une photo d'une représentation de la tempête selon Arias en 1986. Et moi, je vous propose une image sonore tirée d'un atelier de la nuit, une émission importante de France Culture signée Aurélie Charron. C'était en 2008 et un grimpeur à main nue, Antoine Le Ménestrel, grimpait la façade du bas jusqu'en haut. C'était très impressionnant.
Cette ascension, la première fois, je l'ai fait pour Romeo Castellucci en 2008, quand il montait son spectacle Inferno. Donc il m'a demandé de trouver une voie dans la cour d'honneur. Donc il y en a une seule, hein, vraiment. C'est pas moi qui l'ai trouvée. Elle est là, elle existe. J'ai reçu son appel. Il m'a demandé simplement de grimper, pas danser, pas faire d'acrobatie, pas regarder les spectateurs, pas faire le zigoto, simplement grimper. jamais, j'avais mis 20 ans de passer du grimpeur à l'artiste. Et bon, voilà, moi, j'étais en enfer, quoi. Hein. Et en fait, voilà, je me suis mis à grimper, mais d'une façon poétique. C'est pas une escalade de grimpeur sportif qui recherche la difficulté. Je vais jouer avec l'architecture et apporter l'échelle humaine dans cette architecture-là. Et quand je suis en croix dans la rosace, je donne cette dimension humaine dans l'immensité de la façade. Quoi. J'avais l'impression que ça avait été écrit pour moi. Quoi.
Bon, il avait le droit de rien dire, Antoine Le Ménestrel, mais imaginez, Dominique Vintin, que vous ayez été dans le rôle du souffleur, que vous lui ayez expliqué chacune des étapes qu'il franchissait.
Alors effectivement, c'était une histoire sans parole et c'était absolument saisissant. C'était un grand moment de poésie dans la cour cette année-là. Et effectivement, on a vu cet homme qui était presque nu. Hein, donc c'était vraiment...
Enfin, il y avait une peau de bête. Hein.
Oui, mais bon,
enfin,
voilà.
Chacun voit ce qu'il veut.
Mais c'était extrêmement beau de le voir comme ça, grimper sur la façade et s'accrocher aux éléments essentiels de cette architecture.
Les éléments essentiels,
et notamment,
qu'est-ce que c'est ?
La grande fenêtre de l'indulgence, qui est une baie un peu emblématique du festival depuis que Gérard Philippe y a fait ses apparitions. Et cette grande baie de l'indulgence, eh bien, c'était celle aussi par laquelle le pape venait se présenter à la foule qui était assemblée dans la cour d'honneur du palais, qu'on n'appelait pas la cour d'honneur, qu'on appelait la place du palais. Et donc cette grande fenêtre qui avait été détruite par les militaires au XIXe siècle a été reconstruite vers 1910.
Reconstruite, ça veut dire quoi ? Reconstituée.
Reconstruite, c'est pas forcément négatif. Ça veut dire qu'on a retrouvé des éléments de cette fenêtre, qu'on les a intelligemment étudiés. C'était un architecte en chef qui s'appelait Henri Naudet et qui l'a restituer cette fenêtre-là. Et c'est celle à laquelle, sur laquelle s'est étendu en croix Antoine Le Ménestrel, avant de monter plus haut sur cette façade qui est immense, qui compose le mur de scène du festival. Et il grimpait aussi sur les gargouilles. Et on
et
avait
alors,
vraiment...
Les gargouilles sont restaurées, reconstituées,
les
restituées.
Les gargouilles sont aussi reconstituées, reconstruites. Et elles ont été vraiment un petit peu transcendées par le passage de ce grimpeur.
Oh, il a trouvé quelque chose d'ancien.
Alors, toute la façade est ancienne, toutes les ébrasements des baies ont été conservés. Ce sont les moulures qui remplissent ces fenêtres, qui avaient été démontées par les militaires et qui ont été reconstruites.
Donc c'est un beau bilan là, qu'on peut faire à partir de la façade de la cour d'honneur, de ce parcours du monument que vous avez restitué, Dominique Vintin. Une dernière question. Alors on nous met des artistes, je vais pas citer leur nom, ils sont assez commerciaux dans le parc de Versailles. Vous, à Avignon, la création contemporaine dans un monument historique, vous connaissez depuis très longtemps.
Oui. Alors, ça a commencé avec l'exposition de 1947, qui était une exposition absolument extraordinaire. Et la tradition s'est perpétuée d'avoir des expositions d'art contemporain au sein du Palais des Papes.
Jacques Cigale à la réalisation, Philippe Duclos à la technique, Franck Olivard, je l'ai dit, à la préparation. Qu'est-ce qu'aurait pensé de cette présence de l'art contemporain notre ami Étienne Roustan ?
Mec, que je vous recommande encore ? C'est la voûte de la cour d'honneur, c'est le beau ciel bleu de la Provence. Bien entendu, la voûte est antérieure à l'arrivée des papes d'Avignon. Et l'architecte qui l'a conçue n'était jamais allé à l'école. Venez par ici, mesdames et messieurs.
Ce qui aurait été bien pour la transition, Mathieu Vidard, c'est que vous ayez une émission sur... le ciel, l'espace...
Oh bah c'était hier, Jean.
Ben oui.
On peut pas tout faire.
C'est mal calculé. Alors bon, quand même, aujourd'hui...
On va emmener notre cerveau à la plage et prendre des vacances.
Voilà. À la recherche du bien-être. Absolument. Alors je souhaite un bel été.
Merci.